Bonjour à tous. En attendant un retour à l'Église, nous sommes heureux de vous offrir des réunions en ligne. Il est un privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin après plusieurs semaines d'excellents messages de Pasteur Claude. Faites ça pour Pasteur Claude où vous êtes à la maison. Bravo à mon ami pour son leadership et ses messages depuis l'interdiction des rassemblements. Et merci Seigneur pour tous les moyens que la bonne nouvelle de l'Évangile est communiquée depuis la pandémie. Et comment que l'Église de Jésus brille en ce moment, en parole et en action, par son service, son sacrifice, ses œuvres de compassion et de justice de toutes sortes, ses multiples efforts de se connecter et garder contact avec ses membres, et pour inspirer le courage, la confiance, offrir la consolation, absolument remarquable en mon opinion, l'Église brille, malgré la pandémie, malgré les cris pour la justice, ici et partout dans le monde. Qui est non seulement admirable, mais absolument nécessaire, car l'Église n'est pas là pour offrir une solution, mais la solution. Non pas une vérité, mais la vérité. Non pas un chemin, mais le chemin. Nous n'offrons pas une philosophie, ni une religion, ni un style de vie, ni une façon de penser, ni une opinion politique, mais une personne. Nous offrons la personne de Jésus-Christ. L'espoir du monde est le sauveur de l'humanité. L'Église ne sauve personne. Et l'activisme politique ne sauve personne. Jésus sauve. Et nous sommes tout simplement les serviteurs qui préparent le chemin pour Jésus par la prière, la louange, l'amour en action, les œuvres de compassion et la communication de la parole, annonçant la possibilité d'une vie nouvelle trouvée en Jésus-Christ. Et d'un nouveau cœur à chaque personne, sans exception, qui est notre message et notre cause au-delà de toute autre cause que nous avons. Et ce matin, j'ai une parole biblique pour vous que j'appelle « heureux malgré ». Et ce matin, je ne vais pas vous demander de croire quelque chose ou d'être d'accord avec quelque chose ou de dire oui ou amen à quelque chose, même si je ne vous entends pas. Mais de faire quelque chose. Je vous invite ce matin à plonger, de plonger vos regards dans la loi parfaite de Dieu, comme Jacques nous dit de faire dans le livre qui porte son nom, afin de connaître la bénédiction et le bonheur. Oui, la bénédiction et le bonheur, possible même dans les jours que nous vivons. Ce que Jacques appelle être heureux, comme nous voyons dans le premier chapitre de son livre. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et nous savons que le mot traduit « heureux » ici veut dire plus que seulement être content, c'est d'être béni. Joyeux, comblé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime Jacques comme écrivain, mais une des plus grandes est son approche proactive. Il est un homme d'action qui nous appelle à l'action. L'avez-vous remarqué? Plonger les regards est tout de suite suivi par se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Et voici quelques-uns des activités à lesquelles nous sommes appelés, trouvées dans son livre de seulement quelques pages. Chanter, prier, approcher, donner, réjouissez, demander, supporter, écouter, confesser, appeler, plonger, visiter, nettoyer, parler, agissez, œuvrez, croyez, bénissez, soumettez, pleurez et avertissez. Rien que ça. Et voici un autre bon exemple à la fin de son livre. Quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance? Il nous dit dans le dernier chapitre de son livre, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. » Encore une fois, tout le monde a quelque chose à faire, peu importe la situation. Ça va mal? Priez. Ça va bien? Chantez, louez, adorez, exprimez votre reconnaissance. Vous êtes malade, appelez les anciens de l'Église pour l'imposition des mains. Mais surtout pas, ne faites rien. Ne soyez surtout pas une victime passive. partout dans son livre, Jacques nous appelle non pas à l'acceptation, mais à l'action, à l'activisme. L'activisme de la bonne manière, non pas juste en criant et en cassant des vitres, évidemment. Et Jacques a beaucoup à dire sur l'importance de la justice et l'équité, comme nous avons entendu la semaine dernière. Alors, il est évident que Jacques n'est pas seulement anti-passivité, mais anti-fataliste aussi. Et c'est ce que j'aime de lui. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a bien des religions et des croyances sur la planète, historiquement et actuellement, qui sont fatalistes par nature, croyant qu'absolument tout qui prenne place dans nos vies ou sur la planète est prédéterminé d'avance par les dieux ou par un dieu ou même par le dieu, jusqu'au plus petit détail, croyant que pour cette même raison, nous ne pouvons rien changer. Ce qui doit passer avec nous et autour de nous fait toute partie d'un grand plan prédestiné et prédéterminé d'avance qui, malheureusement, prône une mentalité très démotivante et paralysante et génère un discours résignant. Je suis comme je suis car c'est mon sort, c'est ma destinée, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est hors mon contrôle. Que ce soit la pauvreté, la misère, être victime de la corruption ou de nos propres mauvaises habitudes, ça doit être la volonté de Dieu et ça changera si Dieu le veut. Très malheureuse comme mentalité car la Bible n'enseigne pas ce genre de résignation passive. La foi chrétienne, comme qu'elle est décrite dans la Bible, n'est pas une croyance fataliste comme ça. Nous ne croyons pas que tout est prédestiné, prédéterminé d'avance et que nous sommes impuissants à changer les choses ou à changer soi-même ou à changer notre destinée ou la destinée des autres ou que nous sommes impuissants et incapables de changer des situations ou des circonstances. Au contraire, nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible. Tout peut changer. Nous croyons qu'avec Dieu, tout en peut être sauvé. Je n'ai pas dit que tout en va être sauvé, mais tout en peut être sauvé. Dieu connaît nos actions d'avance, mais il ne les contrôle pas. Puis il y a une différence entre connaître d'avance et contrôler d'avance. Et Dieu ne contrôle pas les actions d'avance, malgré qu'il les connaît. Nous sommes responsables pour nos actions et pour nos décisions. Il y a deux choses principales à laquelle l'Église s'engage et s'implique qui vient à l'encontre d'une telle philosophie fataliste et qui sert d'une force pour le changement, la transformation même. La prière et la mise en pratique des enseignements de ce livre, la Bible. Et ce matin, je vous invite à plonger dans ces deux activités. D'abord, plongeons dans la prière. Ce que nous appelons l'intercession, la prière focalisée et intense, comme décrit dans la Bible, et qui attend une réponse de Dieu, la prière qui attend des résultats. L'intercession est le contraire du fatalisme, c'est l'anti-fatalisme. C'est de saisir les promesses de Dieu par la prière afin de transformer notre réalité, notre destinée et notre avenir. Il y a une bonne citation sur l'intercession de Dr. Walter Wink, un théologien écrivain. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. L'intercession est un défi spirituel concernant les promesses de Dieu. L'intercession visualise une possibilité à venir qui, au moment présent, semble être complètement de l'ordre de l'impossible. Elle imprègne l'air du temps au point d'assiéger l'atmosphère du moment. C'est clair. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. L'avenir appartient à quiconque peut envisager une nouvelle possibilité, souhaitée selon ses multiples facettes que la foi considère alors comme étant inévitable. Les églises qui se lamentent continuellement sur leur incapacité à apporter des changements sont en fait dans la position enviable où elles peuvent avoir recours à l'arme la plus puissante qui soit. Cependant, cette âme relève d'un pouvoir spirituel que l'on discerne spirituellement et que l'on exerce spirituellement. Ceci requiert des intercesseurs qui ont foi en l'avenir. La Bible nous appelle à nous approcher de l'Éternel des armées dont les voies sont insondables. Il œuvre pour nous et avec nous. Il agit selon les prières de ceux qui se soucient suffisamment pour façonner un avenir plus humain. La prière biblique est audacieuse, insistante, impudique, impolie. Nous le voyons dans la parabole de la veuve insistante et dans celle de l'ami qui vient frapper à la porte à minuit. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que Walter Wink fait et enseigne, mais à ça, je dis yes, oui, oui. C'est ce qu'on appelle la prière anti-fataliste. Il y a deux raisons principales que nous voulons prier de cette manière. D'abord, pour se connecter avec Dieu et réclamer sa force, sa direction, sa paix, son soutien et sa protection et sa grâce spéciale. Surtout pour ceux qui vivent des crises personnelles, en plus des crises mondiales et sociétales, comme vous probablement. Je connais des personnes et des familles qui vivent une crise à l'intérieur des crises personnelles, des crises familiales. Mais Dieu est là pour vous et nous aussi. Et la deuxième raison que nous voulons prier de cette manière est pour changer notre réalité, notre avenir et l'avenir des personnes que nous aimons. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. Je n'ai aucun doute que si vous donnez à Dieu le contexte, l'endroit et le temps pour agir, il va agir. Et la raison pour laquelle je suis convaincu de cela est que j'ai entière confiance en Dieu. Car ce n'est pas la prière qui marche, mais Dieu qui marche. Ce n'est pas l'acte de prier qui est puissant, mais la personne à qui nous prions qui est puissante. Et pour cette raison, qu'est-ce qui est important dans la prière n'est pas où nous prions, mais à qui nous prions. Ce n'est pas l'heure, ni l'endroit, ni la forme, ni les paroles dites, mais le fait que Dieu est présent. Ce n'est pas la prière même qui compte, mais la personne à qui la prière est adressée. Et son nom est Jésus, un Dieu vivant, présent et capable. Nos leaders, nos médecins, nos gouvernements font du mieux qu'ils peuvent pour nous aider. Et nous sommes reconnaissants et nous prions pour eux. Mais l'être humain est limité dans sa capacité de nous aider et leurs ressources sont limitées, tandis que les capacités et les ressources de Dieu sont sans limite. Quelqu'un devrait dire « Amen » à la maison. Dieu n'est pas confiné d'aucune façon. Alors prions avec attente, avec anticipation d'un résultat. Prions pour la paix, pour la justice, pour le calme. Prions contre toute forme de racisme et discrimination. Prions pour que l'amour règne et non pas la haine, la rage et la colère. Prions pour ceux qui nous gouvernent dans ces jours difficiles. Pour ceux qui nous protègent aussi, ce n'est pas facile, les polices policières en ce moment. Prions pour une vague de repentance et un retour à Dieu. Pour le salut des âmes. Et le changement surnaturel des cœurs par la nouvelle naissance. Prions pour la guérison de notre pays et notre société, qu'en plus d'une crise virale et sociétale, vivent aussi d'autres crises présentes bien avant le COVID, mais magnifiées depuis. La surdose des opioïdes, le taux de suicide, les abus sexuels alimentés par le fléau de pornographie légale et illégale qui envahit la culture et qui est souvent normalisé, parfois banalisé ou même glorifié par notre société. Juste pour mentionner juste quelques-uns. Prions pour que l'Église brille partout dans le monde, même dans les pays où elle est pauvre et persécutée et les chrétiens perdent leur vie par des milliers et très peu de personnes en parlent. Prions. Comme Jacques nous dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il y en a qui vont demander, mais Pasteur Marc, es-tu un homme juste? Oui, je suis un homme juste, justifié par le sang de Jésus, comme vous. Alors, mes prières sont efficaces, vos prières sont efficaces. Plongeons dans la prière qui attend des résultats. Mais la Bible est aussi claire qu'avec la prière, il faut aussi ajouter les actions. L'Église est une voie et un organisme qui vient à l'encontre d'une mentalité fataliste de résignation et d'abandon. Par son intercession, oui, mais aussi par la mise en pratique des principes, des instructions, des conseils et des enseignements de ce livre que nous appelons la Bible. Car c'est le mélange des deux qui crée les conditions propices et nécessaires pour un changement surnaturel et miraculeux chez nous et chez les autres. C'est pour cela ce matin que je vous invite à plonger, non seulement dans la prière, mais aussi de plonger vos regards dans ce livre, plus que jamais, pour découvrir la richesse de sa sagesse, ses vérités, ses conseils, sa puissance pour libérer et pour transformer une vie, et pour rendre une personne bénie, comblée et heureuse dans son activité. De plonger nos regards dans ce livre, surtout pour découvrir Dieu, pour qui il est vraiment. Car malgré qu'il est vrai que Dieu est invisible, il n'est pas quand même indécouvrable ou inconnaissable. Le Dieu invisible se révèle partout et par plusieurs moyens pour ceux qui veulent le trouver. En juste quelques instants, je peux vous donner 5 façons que Dieu se révèle. Par la création, sa création. La nature, la terre, l'univers dans toute sa beauté magnifique. L'humanité, l'être humain, corps, âme et esprit fait à l'image de Dieu. Avec le temps, on découvre qu'il est plus magnifique qu'on pensait. Il se révèle par son fils Jésus, qui a vécu sur la terre d'une manière publique comme un homme pour plus que 30 ans, bien documenté par les évangélistes. Il se révèle par l'Église, la vraie Église, le corps de Christ qui fait de son mieux pour refléter le caractère de Dieu. Il se révèle par le Saint-Esprit, l'esprit de communication et révélation. Et en dernier, il se révèle par sa parole, la parole, ce livre. Comme je dis souvent, vous voulez connaître Dieu? La Bible. Vous voulez mieux connaître Dieu? La Bible. Vous voulez découvrir Dieu ou redécouvrir Dieu? La Bible. Vous voulez entendre la voix de Dieu? La Bible. Dieu nous parle ici. Et pour tous ceux qui disent, mais moi je veux entendre la voix audible de Dieu, pas de problème, lisez votre Bible à haute voix, parce que Dieu nous parle ici. Alors, plusieurs bonnes raisons pour faire ce que Jacques nous demande, de plonger dans ce livre. Car il est une chose de jeter un regard rapide sur les pages de ce livre, mais un autre de plonger en lui avec l'intention de changer et d'aller encore plus profond et encore plus loin avec Dieu. Comme il est une chose de regarder la mer debout sur la plage, mais un autre de plonger sous ses eaux, comme j'ai eu le privilège de faire à quelques reprises. Vous êtes d'accord avec moi? Une vue de la mer debout sur la plage est magnifique et impressionnante. Mais encore plus merveilleux, c'est le plonger en apnée, snorkeling, avec tuba et masque. La tête juste sous la surface, nous découvrons un autre monde de couleurs et créatures invisibles à la surface. Mais mieux encore, c'est le plonger sous-marine avec bonbonne à 10 mètres ou plus, comme j'ai déjà fait. C'est plus qu'un autre monde, c'est une autre planète. Une planète de vie et de créatures et de couleurs magnifiques. C'est du wow! Et en plus, ça semble être illimité ce que nous pouvons découvrir sous la surface des océans. Comme cette créature bizarre que vous voyez sur l'écran, trouvée à plus que 21 000 pieds sous la surface de l'eau il y a quelques semaines, la plus profonde dans l'histoire de l'océanographie. Puis il l'appelle Dumbo à cause de ses oreilles. Il est illimité ce que nous pouvons trouver dans l'océan comme dans la Bible. Il y a des « wow » à découvrir dans la parole de Dieu. Ça fait 36 ans que non seulement que je lis et que j'enseigne la Bible, mais que je l'étudie de toute manière possible, avec l'obtention d'un baccalauréat en théologie biblique, par la suite une maîtrise, en ce moment en programme PhD en théologie biblique. Et je découvre encore des choses sur la vie de Christ et sur Dieu et sur moi-même et sur son Fils Jésus et sur le Saint-Esprit. Je découvre encore des choses ici dans la parole de Dieu, des choses « wow ». Et comme vous savez, l'idée de plonger est le contraire d'une lecture blasée, nonchalante et détachée. De plonger n'est pas rien que de tremper nos orteils dans l'eau. Plonger veut dire « all in », corps, âme et esprit. Quand nous plongeons, l'eau nous entoure. Elle est en dessous, en haut et à chaque côté de nous. On est couvert d'eau comme que nous devons être couverts de la parole de Dieu. L'écrivain Jerry L. Wallace a dit ceci, Walls a dit ceci. « Nous considérons que la Bible est sous nous pour nous donner un fondement solide et une base à notre compréhension. Elle nous entoure pour marquer ses limites de nos actions et de notre spéculation. Elle est aussi au-dessus de nous comme ultime autorité pour nous conduire et nous juger selon la pensée de Dieu. Et en plus, elle réside en nous, accordant et confirmant la véritable conception de qui est Dieu et de qui nous sommes. » Je suis entièrement d'accord. Mais contrairement à l'eau de la mer, où nous ne devons pas l'avaler, avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés à plonger nos regards en elle, mais aussi de l'avaler, le digérer, le dévorer même, afin de l'assimiler, l'absorber et l'incorporer en nous. Comme Ézéchiel a fait en Ézéchiel chapitre 3, il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. » Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » La même chose était demandée de Jean dans l'Apocalypse, le dernier livre de notre Bible, très semblable à Ézéchiel. « Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Puis il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il serait doux comme du miel, semblable à Ézéchiel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Très semblable. Jean et Ézéchiel ont vécu des choses très semblables. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a énormément de parallèles et similitudes entre ces deux livres, Ézéchiel et l'Apocalypse, l'expérience d'Ézéchiel et l'expérience de l'apôtre Jean, malgré qu'ils sont séparés par 600 ans, plus que 600 ans. Alors qu'ils vont demander, mais comment que ça se fait? Parce que c'est le même Dieu qui ne change jamais. Et c'est ça qui est merveilleux avec la Bible. Il y a une cohérence complémentaire partout dans la Bible, malgré les années de séparation, parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui ne change jamais. Alors, le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Daniel, qui était le Dieu de Pierre, Paul et Jean, et il est notre Dieu aussi. C'est le même Dieu qui ne change jamais. C'est pour ça que la Bible est complémentaire et non pas contradictoire. Et si quelqu'un veut savoir qu'est-ce qui goûte la parole de Dieu, la réponse est simple, aigre et douce, sweet and sour. Il y a une partie de ce que nous lisons dans ce livre qui est doux comme le miel. Jean le dit, puis Ézéchiel le dit. Car en lui, on découvre la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la consolation de Dieu. Dans la Bible, nous découvrons la patience de Dieu et son pardon, son salut, sa générosité, sa miséricorde. Les multiples promesses et paroles qui nous font du bien, nous soulagent et nous communiquent la sagesse et qui nous encouragent et nous remplissent de confiance, même pendant cette pandémie. On trouve un calme parmi le chaos. Et on ajoute à cela toutes les paroles dans la Bible qui soulagent et guérissent l'âme troublée ici-bas sur cette terre avec la promesse du ciel un jour dans un corps glorifié avec le Seigneur pour l'éternité. Ça, c'est le miel. C'est la partie douce. Mais la Bible contient aussi une partie plus amère. Comme Jean a dit, c'était le miel, mais après ça aussi un peu d'amertume. Il y a aussi une partie plus amère, plus difficile à avaler que le miel. Car la Bible parle aussi des jugements de Dieu et de la colère de Dieu contre l'incrédulité et l'injustice. Elle parle de l'existence du malheur, de la méchanceté et le malin, ainsi que la réalité du péché et le salaire du péché, les conséquences pour le péché, qui est toujours la mort d'une vie, la mort d'un mariage, la mort d'une réputation, la mort d'un avenir, la mort d'un potentiel et ultimement la mort d'un homme pour l'éternité. La Bible parle du ciel, oui, mais elle parle aussi de l'enfer, la séparation éternelle de Dieu. Ce que l'apôtre Paul appelle la bonté et la sévérité de Dieu dans son livre aux Romains, chapitre 11. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considère les deux. Dans la Bible, nous trouvons des promesses de consolation, mais aussi des commandements et des conditions. La Bible parle aussi des catastrophes, des calamités, des troubles actuels et à venir. Elle parle des vraies affaires, si vous voulez. La vie comme elle est, et non pas une vie idéaliste ou utopienne. Et c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'aime de la Bible. Et une des raisons parmi plusieurs que je la trouve vraie et crédible. Parce qu'elle décrit la vie comme nous le connaissons et ne cache pas la réalité du mal, de la souffrance ou même de la mort. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont surprises parce qu'ils prennent place dans le monde aujourd'hui. Le monde entier est sous l'influence du malin, nous dit Jean dans son évangile. Le monde entier sous l'influence du malin. Nous vivons dans un monde déchu et malade à cause du péché et de la corruption. Paul le décrit de cette manière encore dans son livre aux Romains. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de la corruption. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les chrétiens ne sont pas exempts non plus de cette souffrance et cette corruption parce que nous vivons tous ensemble sur cette planète qui est déchue, cette planète corrompue. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent plus croire en Dieu ou la Bible. Dieu a la souffrance dans le monde. Il faut comprendre que Jésus nous a promis le ciel, oui, mais rendu au ciel. Mais nous ne sommes pas encore là. Il y a des gens qui vont demander, mais comment pouvons-nous croire en Dieu comme qu'il est décrit dans la Bible s'il permet une telle pandémie? Il faut comprendre que la pandémie COVID et tous les autres malheurs qui existaient avant son arrivée et qui seraient là après son départ et que nous vivons pendant même, incluant les émeutes, le racisme, les injustices, la violence, les problèmes écologiques, les agitations météorologiques, les problèmes mondiaux que nous témoignons à chaque jour, n'enlève pas à la crédibilité de la Bible, il ajoute à sa crédibilité. Car elle nous annonce ces choses depuis longtemps. Voici juste quelques exemples tirés de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles dans le ciel et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et parmi toutes ces douleurs et troubles qui sont annoncés, il y a quand même une partie miel, parce que dans la déclaration de tout ce qui va arriver vers la fin, il ajoute aussi ceci, Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le miel parmi le malheur. Et c'est quelque chose qui prend place en ce moment. La prédication de l'Évangile en masse, avec une multitude d'âmes sauvées et de personnes qui reviennent à Christ. J'ose dire que probablement plus de personnes ont entendu la parole de Dieu communiquée dans les derniers 3 mois que dans l'histoire de l'humanité à date. Grâce à tous les moyens technologiques utilisés pour communiquer aujourd'hui, ainsi que l'intérêt des gens pour trouver des réponses et de l'aide pour ceux qui traversent, la Bible nous parle de cette éventualité il y a 2000 ans. Il y en a d'autres qui vont faire référence aux personnes qui abandonnent la foi aujourd'hui. Comme l'artiste chrétien dernièrement, après un artiste chrétien renommé, je n'aimerais pas son nom, mais après des années de vie chrétienne et de chanter des chants pour un Dieu qui ne croit plus. Il y en a qui disent, mais Pasteur Marc, quand tu vois ça, est-ce que ça te fait douter, Pasteur Marc? Au contraire, parce que dans ce même passage où il décrit les troubles de la fin, Matthieu écrit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un certain nombre se refroidira. » Et l'apôtre Paul le dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas surpris par rien qui prenne place. Il nous a annoncé et averti ces choses il y a bien longtemps. Oui, il y a des personnes qui abandonnent la foi, comme c'est annoncé dans la Bible, mais il y en a beaucoup aussi qui viennent à la foi. Tout ça est annoncé. La prédication de l'Évangile en masse, mais aussi des personnes qui vont abandonner pour différentes raisons. C'est tout là dans la parole de Dieu. Et plusieurs passages dans la Bible parlent aussi des changements rapides. Des nations bouleversées en une journée, des villes détruites dans une heure, qui donnaient toujours l'impression d'être un peu exagérées, mais plus maintenant. La Bible nous avertisse et nous annonce tout ce que nous vivons en ce moment. Et si la Bible est vraie sur tout ça, pourquoi douter ce qu'elle nous dit au sujet de Dieu et le salut? Nous pouvons questionner le pourquoi et l'utilité de la souffrance si nous voulons. Mais une chose que nous ne pouvons pas questionner est l'intégrité de Dieu, car il nous avertit partout dans sa parole de la réalité et la certitude du mal, de la souffrance et de l'amour. La Bible est intègre. Elle n'inclut aucune clause cachée. Elle nous annonce que le mal existe, mais Dieu existe aussi. Et Dieu est là, et Dieu est avec nous. Et ultimement, Dieu gagne. Il nous prépare une éternité sans la souffrance, sans la douleur, sans les larmes et sans la maladie. Mais entre-temps, ici-bas, la Bible ne cache pas que nous sommes loin du paradis. Nulle part la Bible nous décrit un monde ou une vie sans la souffrance ou le mal. Et personnellement, je douterais la crédibilité de la Bible s'il n'y avait aucun mal ou souffrance. C'est pour cela que le chaos et les crises ne me fait pas questionner ma foi, elle l'a fortifiée. C'est une autre preuve que la Bible est vraie et ne cache pas des réalités de la vie, même ceux qui sont tristes et tragiques. Si on vivait une utopie sur la terre, absent de toute maladie, souffrance, injustice et mal, là je jetterais ma Bible dans la poubelle. Là je dirais, mais c'est un paquet de mensonges ça. La vie est belle et c'est un paradis sur la terre, tandis que la Bible nous parle d'un monde troublé et angoissé. Mais le contraire est vrai. Tout ce que nous vivons existe depuis toujours et il est bien annoncé et décrit dans la Bible. Nous n'avons pas toujours les réponses au sujet de la souffrance, mais nous savons ce que la réponse ne peut pas être, que la Bible n'est pas vraie et je ne suis pas aimé. De voir Jésus sur la croix, comme décrit dans les Évangiles, doit mettre fin au doute que Dieu ne nous aime pas. Et cette assurance de l'amour de Dieu me remplit de confiance et assurance et paix malgré les crises, malgré les tristesses. Il est possible d'être heureux quand nous savons que Dieu est intègre, Dieu est présent et Dieu nous aime. Et la Bible est vraie. Je termine avec quelques moyens pratiques de comment plonger nos regards dans ce livre pour tirer le maximum de bénéfices. Comment le dévorer, si vous voulez? D'abord, lisons toute la Bible, et non seulement les livres ou les passages préférés, qui incluent aussi l'Ancien Testament. Méfiez-vous de ceux qui dénigrent et balayent à côté l'Ancien Testament de votre Bible. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit ici. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à quoi? À toute bonne œuvre. Alors, nous voyons encore un lien entre lire et faire. Deuxième, lisons la Bible d'une manière lente, méditative, réflexive. Je sais que plusieurs personnes suivent un programme de lecture de la Bible en un an, qui est tout à fait correct et admirable. Mais mieux prendre 2 ans pour la lire comme il faut que 1 an de lecture un peu rapide et routinière pour être certain qu'on ne tombe pas en arrière de notre calendrier de lecture. Vous me comprenez? Nulle part la Bible nous dit qu'il faut la lire en 1 an. Mieux prendre notre temps puis la lire comme il faut, d'une manière méditative, réflexive. Lisons la Bible d'une manière constante et méthodique, en assurant qu'à chaque jour, au moins à chaque semaine, vous lisez une partie des, qu'est-ce que j'appelle, les 5 divisions naturelles de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre. La Bible est une compilation de livres. 66 livres, écrits par plus que 40 auteurs pendant une période de 1500 ans. Alors, il ne faut pas débuter notre lecture en Genèse chapitre 1 pour terminer 1 ou 2 ans plus tard en Apocalypse 22, parce que ce n'est pas un livre où on lit page 1 puis on termine aux dernières pages. C'est plusieurs livres de différents genres et qui communiquent différemment. Alors, il est recommandé de visiter chaque partie régulièrement. Comme vous voyez sur l'écran ici, ce que j'appelle les 5 divisions naturelles de la Bible, et nous devons, sur une base régulière, visiter chacune de ces parties-là. Nous avons Genèse à Esther, l'histoire de la création du monde, l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Israël. Après ça, nous avons Job au Cantique des Cantiques. Ça, c'est les livres de sagesse, les livres poétiques, remplis de paroles de prières, de louanges et d'actions de grâce et de paroles de sagesse. Par la suite, nous avons Isaïe à Malachie. Ça, c'est la littérature prophétique, qui est un autre genre, qui enseigne d'une autre manière. Là, on tombe dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament de notre Bible, et nous avons Matthieu au livre des Actes des Apôtres. Et ça, c'est l'histoire de la vie, les enseignements, la naissance, la mort, la résurrection de Jésus, ainsi que la naissance de l'Église, comme décrit dans le livre des Actes. Et par la suite, nous avons Romains au livre de l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on appelle les épîtres. Ça, c'est les lettres qui sont écrites aux églises et remplies d'enseignements, remplies de théologie pour tous et chacun de nous. Et c'est ce que j'appelle les cinq divisions naturelles de la Bible. Et on devrait lire en chacun. C'est ce que je fais, moi. Je lis toujours dans ma lecture quotidienne une partie dans chacun de ces sections-là. Puis si je commence à Genèse, je termine à la fin d'Esther. Là, je recommence Genèse chapitre 1. Quand j'arrive ici à la fin, je commence avec Job. Et c'est comme un roue qui tourne en tout temps pour que je puisse me nourrir de chacun de ces parties et ces sections de la Bible. Alors, lisez la Bible, pas d'une manière juste comme ça, aléatoire, sporadique, mais vraiment d'une manière constante et méthodique. Et vous allez découvrir que la Bible ne se contredit pas, que la Bible est remarquable. Quarantaine de personnes pendant 1500 ans, 66 livres et très peu de contradictions. C'est vraiment cohérent, c'est complémentaire. Ça dit toute la même chose par rapport à ce Dieu qu'on découvre parce que c'est le même Dieu. Vous allez, comme exemple, vous allez découvrir que l'Ancien Testament annonce l'arrivée de Jésus, annonce la passion de Jésus et la croix. Et par la suite, les évangiles décrivent l'arrivée de Jésus et la passion et la croix. Et par la suite, les épîtres expliquent l'arrivée de Jésus et l'appliquent à nos vies avec la théologie de la croix et la vie et la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible, parce que l'ensemble de la Bible nous aide à comprendre Dieu et son amour, Jésus, le salut, notre raison d'être. Une lecture de toute la Bible d'une façon méthodique. Quatrièmement, lisons la Bible dans la prière et avec l'aide du Saint-Esprit. Typiquement connu comme Lecto Divina, qui intègre la lecture de la Bible dans la vie de prière. Nous prions la Bible. C'est quelque chose que moi je pratique depuis des années, où je laisse la parole me conduire et diriger mes prières. Je prie ce que je lis dans la Bible. Et de cette manière, on l'avale. Ça entre dans nos entrailles, comme avec Ézéchiel et Jean. Ça rentre en nous parce qu'on le fait avec l'aide de l'Esprit, dans un moment de prière. Et à chaque jour, ma vie de prière change. Et la manière que je prie change parce que mes prières sont inspirées par la Bible. Alors, je vais passer de la louange à l'action de grâce, à la lamentation, à la repentance et parfois l'intercession ou la supplication. Mais c'est jamais rétunière, c'est jamais répétitive et ennuyante parce que ma prière est inspirée par la parole. Si je prie par la parole rentre en moi et ça me donne la force pour qu'est-ce qui m'attend, la journée, la semaine, la vie qui est devant moi. Et en dernier, le plus important de tout, lisons la Bible avec l'intention de la mettre en pratique, de la pratiquer. Nous lisons et écoutons, et par la suite nous agissons, nous changeons. Sinon, notre lecture devient futile et nous passons entièrement à côté de sa puissance. Sa puissance est trouvée dans sa mise en action. Voici ce que Jésus a dit, qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Le même mot que Jacques. Vous êtes heureux, béni, joyeux, comblé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais, il y a une condition. Jésus continue. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu, une condition, que vous les pratiquez. Il faut pratiquer. Pas seulement mémoriser ou lire ou connaître, il faut le mettre en pratique. Jacques dit quelque chose de très, très, très semblable dans son livre encore, chapitre 1. Il dit la même chose que Jésus. Mettez en pratique la parole. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, Jésus et Jacques sont d'accord. Le bonheur n'est pas trouvé dans la connaissance seulement, mais dans l'action. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la paix, la prière, la générosité, le pardon, la louange, le service, la compassion. Il faut pratiquer le service. Il faut pratiquer le sacrifice. Il faut pratiquer la grâce. Il faut pratiquer l'obéissance à Dieu, peu importe le coût. Il faut pratiquer l'intégrité pour vivre sa puissance. Et il faut aussi pratiquer le changement. Il faut laisser la parole de Dieu nous changer. La puissance, la Bible n'est pas un menu, elle est un miroir. Pour ceux qui se souviennent, c'est quoi un menu au restaurant? Avec un menu, nous choisissons ce que nous aimons et ignorons ce que nous n'aimons pas. Tandis qu'un miroir révèle tout, tout. Malheureusement, surtout là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai gagné un COVID-19 livres depuis le début de la pandémie. Alors quand je regarde le miroir le matin, je me dis, il faut un changement. Nous lisons la Bible pour découvrir les merveilles de Dieu, évidemment, mais aussi pour découvrir soi-même et soi-même par rapport à Dieu. En elle, le vrai moi, le vrai nous est révélé. Toutes les pensées qui nous paralysent, ainsi que toutes les attitudes, regrets et peines du passé qui nous gardent captifs et prisonniers. Elle révèle nos actions et habitudes qui nuisent à notre témoignage et notre progrès. Elle amène à la lumière nos péchés, notre haine, notre négligence, nos préjugés de toutes sortes, notre paresse, nos peurs, notre orgueil, et notre tendance de justifier nos mauvaises actions ou même notre inaction qui est parfois pire. Or, rien ne demeure caché au miroir de la parole de Dieu. Elle nous dit quoi faire, et quoi ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter dans notre vie et qu'est-ce qu'il faut enlever de notre vie? Ça nous parle de la vérité par rapport à Dieu, ainsi que la vérité par rapport à moi. Et la vérité, point. La vérité, point. La vérité qui nous aide à gagner ce qui est absolument primordial en ce moment, le discernement. Le discernement est une qualité spirituelle, biblique, possible pour tous les chrétiens, et le discernement est gagné par une connaissance, connexion et compréhension à la parole de Dieu. Ça nous donne comme une sagesse, comme un discernement. Puis le discernement, c'est la capacité de distinguer la vérité à travers la cacophonie de voix et d'opinions et de mensonges proférés à tous les jours, on a l'impression, parfois par des politiciens, parfois par des journalistes, parfois par des spécialistes et même par des faux prophètes et apôtres. Il faut comprendre, si le monde entier est sous l'influence du malin, et Jésus décrit le malin Satan comme le père des mensonges, il est sans doute beaucoup plus de mensonges arrière le chaos que nous vivons et expérimentons, que nous pouvons constater, dont la nécessité du discernement. Il nous faut plus que jamais un discernement acquis par une connaissance, compréhension, une connexion avec la Bible, pour que nos opinions et nos actions et nos déclarations soient inspirées et fondées sur les principes de Dieu et non pas juste les voies populaires ou les pressions culturelles. C'est vital aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours facile. Ah oui, un dernier mot sur comment plonger nos regards dans la loi parfaite. Inscrivez-vous à l'Institut de théologie pour la francophonie pour des études bibliques au niveau universitaire. Une petite annonce publicitaire pour le même prix. Mais dans le fond, faites tout ce qui est nécessaire. Écoutez les prédications, les études, chercher, lire des livres sur la parole de Dieu. Lisez surtout la parole de Dieu de la manière que je l'ai décrit pour donner aucune place à l'ennemi, pour pas que l'ennemi vole à rien de votre vie et votre potentiel par ses mensonges. Ne donne aucune place par la négligence. Il faut être réveillé à l'importance de la parole de Dieu pour vivre dans la vérité et non pas selon les mensonges de l'ennemi. Moi, j'ai payé un prix il y a 2 ans pour être dormi à la mauvaise place et un peu négligent. J'étais à l'aéroport de Paris, dans le terminal à l'aéroport de Paris, entre 2 voyages, un voyage de Montréal-Paris la nuit. Et là, j'étais fatigué dans le terminal. J'attendais mon autre vol. Ça date de juste 2 ans, ça. Puis j'avais une belle montre que j'avais depuis des années, une belle montre de qualité que j'avais gagnée à un match des Raptors de Toronto. Et là, je me suis endormi dans le terminal avec mon bras étendu comme ça. Et quand je me suis réveillé, ma montre était partie, volée. Sur mon poignet, volé pendant que je dormais. Puis j'ai parlé avec un gardien, un policier qui n'était pas loin. J'ai dit, quelqu'un a pris ma montre. Il a dit, oui, ça arrive souvent. Les personnes sont très, très habiles. Quand ils voient une victime à l'aéroport qui s'endort, qui est dormée et vulnérable, sont très, très habiles à juste l'enlever sans que la personne aperçoive. J'ai dit, wow, incroyable. J'étais dormi et quelqu'un réussit à déclipper et enlever ma montre pendant que je dormais. J'étais une victime parfaite, endormie, pas attentionnée, et quelqu'un l'a volée. C'est rien qu'une montre. Mais l'ennemi fait pareil. Il cherche des victimes de qui il peut voler leur joie, leur potentiel, leur force, leur victoire par ses mensonges. N'écoutez-le pas. Vaincre l'ennemi par la vérité. Votre situation peut changer. Vos circonstances peuvent changer. Votre mariage et votre famille peuvent changer. Il est possible. Ne demeurez pas en place, paralysé dans la boue de l'incrédulité, de l'apitoiement et du fatalisme. Réveillons-nous à la vérité qui libère, la vérité qui guérit, la vérité qui transforme et qui relâche la puissance du royaume de Dieu en nous, pour nous et à travers de nous. La vérité qui est connue et pratiquée, qui produit une vie comblée, bénie, joyeuse et heureuse, malgré les crises, malgré nos crises. Malgré les situations tragiques, malgré les tristesses, il est possible de vivre une vie heureuse, comblée, joyeuse, comme Jésus le dit, comme Jacques le dit, comme la parole de Dieu nous dit, par connaître et par pratiquer la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de la prière, pour la puissance de la vérité, de la parole de Dieu. Et moi, je vous invite aujourd'hui, cette semaine, à chaque jour si possible, plongez dans la prière qui attend des résultats et plongez vos regards dans la parole de Dieu pour la mettre en pratique et vous allez être heureux, comblés, joyeux, malgré les défis qui sont devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avant que Sandra et l'équipe reviennent avec un dernier chant, on va juste avoir un mot de prière ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta puissance. Merci pour ta parole qui nous enseigne, nous inspire, nous encourage. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit avec nous et en nous. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment, chaque personne, qu'ils soient en groupe, en famille ou tout seul, partout ce qu'ils sont, tu connais leur nom, leur adresse, leurs soucis, leurs défis, leurs combats, leurs problèmes. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ton pardon, pour, Seigneur, ta présence qui est là et que ton esprit puisse nous aider. Aide-nous, Seigneur, dans la prière. Aide-nous à plonger dans l'intercession. Aide-nous, Seigneur, à se réveiller des mensonges de l'ennemi pour marcher dans la vérité. Aide chacun de nous dans notre lecture de la parole, que la parole peut être illuminée, inspirée, qu'on vit des moments, Seigneur, de révélation pour nous-mêmes et d'encouragement et de force. Et que nous soyons toujours un peuple, non un peuple juste passif, fataliste, mais un peuple de l'action. D'action spirituelle, de prière et de mettre en pratique ta parole. Donne-nous cette grâce, cette force, cette capacité, Seigneur, de vivre le changement par la prière et ta parole et par ta grâce. Je prie ta bénédiction, ta santé, ta paix, ton amour, ta joie sur tous et chacun et ta provision au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.